Le livre de l'Apocalypse est un petit livre. Voilà, je vous l'ai mis dans une, je pense, dans une édition savante, donc avec des pages où vous avez près du tiers de la page en notes érudites, une longue introduction, très savante, par des grands savants. Donc vous voyez, c'est un tout petit livre. Mais pourtant, ce petit livre a un grand succès, justement parce qu'il est mystérieux. Alors, première remarque, c'est que l'Apocalypse achève la Bible chrétienne. Donc, est lu normalement par des chrétiens. Mais les chrétiens ne sont pas propriétaires de leur livre, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens lisent ce livre. Et forcément, l'interprétation qu'ils donnent est foisonnante, puisqu'ils lisent ce livre dans des perspectives qui n'est pas exactement celle de son auteur. Et c'est pourquoi mon souci, maintenant, c'est d'essayer de vous dire qu'est-ce que le livre dit vraiment. Qu'est-ce que son auteur a voulu nous dire dans ce livre, de manière à ce que nous puissions nous situer par rapport à toutes sortes d'explications liées à un passage du livre, ou à une phrase du livre, ou même à un mot du livre, qui, sorti de son contexte, ne dit pas ce que l'auteur voulait lui faire dire. Voilà, donc c'est une question de clarification qui me semble utile, puisque quand on parle de la fin des temps, on cite non seulement les calendriers mayas, un peu ésotérique, mais l'Apocalypse parmi ces textes ésotériques. Alors, il y a un petit côté qui nous paraît ésotérique. Donc mon but, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas de secret dans l'Apocalypse. Il y a simplement une difficulté de lecture liée à notre ignorance. Et comme nous sommes là pour vaincre l'ignorance, c'est le but des universités d'été, nous sommes bien situés. Deuxième remarque introductive, la question de la fin du monde est un phénomène universel. Toutes les religions nous parlent de la fin des temps. Tous les philosophes en sont inquiets. Tous les grands romans en parlent. Je dis les grands romans, hein, pas forcément le dernier thriller policier encore que je lisais hier, la couverture d'un thriller sur la fin du monde. J'ai vu que la couverture. Je me suis endormi avant d'ouvrir le livre. Des bandes dessinées nombreuses nous parlent de la fin des temps. Bref, la fin du monde est d'actualité, à la fois en pensée, mais aussi en imagination. Eh bien, c'est la raison pour laquelle l'Apocalypse fournit des éléments à l'imagination. Voilà. Donc, nous allons essayer de voir ce que c'est qu'une Apocalypse. C'est la première partie. La deuxième partie, qu'est-ce que Saint Jean a voulu nous dire en écrivant l'Apocalypse? Et la troisième partie, l'actualité de l'Apocalypse concernant la fin du monde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Apocalypse? Alors, le mot Apocalypse, c'est la transcription en français d'un mot grec. Alors, quel est ce mot? Eh bien, c'est le premier mot du livre. Et comme vous le savez, avant que la SACEM existe, on appelait les pièces, les livres, de leur premier mot. C'est ainsi que, parmi les gens pieux qui sont là parmi vous, quand vous allez à Vêpres, on vous fait chanter le Magnificat. Pourquoi? Parce que c'est le premier mot du cantique qui commence en latin par Magnificat. De même, on dira à l'enterrement qu'on va faire un De Profundis, parce que c'est le premier mot du psaume De Profundis qu'on lit dans les obsèques. Vous voyez, donc on nomme le livre de son premier mot. Alors, les trois premiers mots du livre, c'est ce que vous avez dans le numéro 1 des textes que je vous indiquais, c'est transcrit le grec, Apocalypsis, Jésus Christou, Apocalypsis, dans transcrit en français, Apocalypse. Donc, ce n'est pas une traduction. Alors, que signifie ce mot? Eh bien, c'est un mot très simple. Il signifie tout simplement enlever le voile. Hein, c'est comme quand Monsieur le maire inaugure sur la place de la République la nouvelle statue de la République. Elle est couverte d'un voile. Ce n'est pas une question de décence, mais c'est une question de circonstance. Il faut qu'il tire sur la ficelle et la République triomphante nous apparaît. C'est pareil pour la plaque que l'on va poser au coin de la rue en honneur des grands personnages qui ont vécu quand, dans 20 ans, on mettra une plaque ici à commencer l'université d'été de Castanet. Il y aura monsieur le maire, le préfet, l'archevêque, enfin tout le monde. Hein, et on tirera sur un voile et on va dévoiler la plaque. Il y aura Apocalypse. Dévoilement ou révélation, c'est le même mot. Dévoiler, révélation, on roule le voile, hein, dans la révélation, et donc il va apparaître quelque chose. Donc c'est le sens banal, hein, du mot, le sens banal du mot, qui a un sens religieux. Alors évidemment, c'est ça l'objet du livre, c'est de révéler quelque chose de Jésus-Christ. Alors le mot « de Jésus-Christ » signifie deux choses. Soit on peut l'entendre, c'est Jésus l'objet de la révélation, soit ça peut être une révélation qui vient de Jésus. Révélation de Jésus. On va nous dire des choses sur Jésus, ou soit révélation de Jésus, on nous dit quelque chose de la part de Jésus. Et je pense que les deux sont tout à fait recevables, parce que les deux choses sont liées, puisque en disant quelque chose de lui-même, Jésus se manifeste pour ce qu'il est. Donc nous sommes au clair, c'est une révélation de Jésus-Christ. Mais le mot Apocalypse n'a pas seulement ce sens premier, il a un sens plus général, parce que dans la littérature des premiers siècles, il y a abondance de livres qui vont se présenter comme des révélations ou comme des apocalypses. Nous l'avons dans le monde juif et également dans le monde chrétien. Dans le monde juif, il y a ce qu'on appelle la littérature intertestamentaire, donc l'Ancien Testament, écrit en hébreu, s'arrête à peu près au IIe siècle. Le Nouveau Testament apparaît au Ier siècle. Donc il y a deux siècles pendant lesquels il n'y a pas d'écriture canonique dans le judaïsme. Alors les spécialistes appellent ça littérature intertestamentaire entre l'Ancien et le Nouveau. Alors dans cette littérature juive intertestamentaire, qui est maintenant très connue puisque vous la trouvez dans la collection de la Pléiade, vous avez des apocalypses qui s'appellent comme tel Apocalypse. Voilà. Donc c'est des textes qui vont essayer de réfléchir sur la situation du temps où se trouve la communauté juive dans cette espèce de dépression terrible pour sa foi, qui consiste au fait qu'il n'y a justement plus de prophètes. Eh bien, la prophétie va se renouveler en donnant la parole à des visionnaires qui vont reprendre les textes prophétiques pour montrer leur actualité. Alors donc, nous avons tous ces éléments d'Apocalypse. Donc, vous avez une Apocalypse d'Abraham, une Apocalypse d'Élie, une Apocalypse de Baruch. Vous voyez donc tous ces textes qui se présentent comme Apocalypse. Vous voyez, donc l'Apocalypse de Jean n'est pas une Apocalypse seule dans le monde. Alors, dans le monde chrétien, il y a aussi, donc à partir du 1er siècle, pendant les deux premiers siècles, un certain nombre de textes qui se présentent comme Apocalypse. Ce n'est pas forcément une lecture réjouissante, car c'est des textes un peu bizarres et un peu difficiles. Alors vous avez une Apocalypse de Pierre, une Apocalypse de Paul, une Apocalypse d'Esdras, une Apocalypse de Cédrac, etc., etc., qui sont des textes qui se présentent comme des visions de Pierre, de Paul, d'Esdras, de Cédrac, d'Isaïe, de tous ces gens célèbres. Ce qui fait que nous pouvons considérer qu'il y a un genre littéraire des apocalypses. Tous ces textes ont en commun un certain nombre de traits littéraires. Et les percevoir nous permettra de bien comprendre quelle est l'originalité de Jean par rapport à cela. Et de nous poser une autre question, pourquoi on a mis hors de la Bible des textes présentés sous l'autorité de Pierre et tutti quanti, qui sont des gens très sérieux, et pas le texte de Jean? Vous voyez, donc il y a un problème, hein? Il y a eu quantité à l'époque de livres du même genre, mais on les a tous rejetés hors du canon des Écritures, sauf l'Apocalypse de Jean. Ce qui ne s'est pas fait d'ailleurs facilement, parce qu'il y a eu des bagarres assez vives autour de ce livre. Alors quel est le genre littéraire de tout cet ensemble? Et c'est par rapport à ça que nous allons pouvoir voir l'originalité du texte de Saint Jean. Alors, pour obéir à un tic de présentation facile à suivre, j'en ai relevé 7. La première chose, c'est qu'il y a un lien étroit entre le céleste et le terrestre. Selon une cosmologie qui n'est pas la nôtre, hein, il y a le monde céleste et le monde terrestre, et il y a une correspondance entre le céleste et le terrestre. Donc ce qui se passe dans le ciel a une influence sur ce qui se passe sur Terre. C'est ce qu'on appelle, on retrouve ça aujourd'hui dans dans l'astrologie. L'astrologie, pour nous, astrologie, donc pas sérieux, à l'époque, ça faisait partie des connaissances, je dirais, des gens sérieux. Hein. Voilà, donc c'est premièrement, le rapport du céleste et du terrestre. Deuxième élément, forcément, puisqu'il faut faire communiquer le terrestre et le céleste, apparaît une catégorie de gens qui s'appelle les anges, qui sont littéralement les messagers qui font le lien entre la terre et le ciel. Ce n'est pas Internet, c'est les anges. Il y a un réseau, hein, un web angélique de messagers. Ils sont les délégués des puissances célestes pour remplir une fonction bien précise. Troisième critère général de cet ensemble de littérature, l'auteur fait autorité. C'est-à-dire que on vous dira, par exemple, Apocalypse d'Abraham. Abraham qui va nous faire une révélation, hein, écrite de sa main. Hein, évidemment, vous sentez l'audace de la créativité. Ça peut être un roi, hein, ça peut être un prophète comme Isaïe, ça peut être quelqu'un qui est monté au ciel comme Élie. Alors c'est évidemment des gens qui ont une certaine autorité. Le quatrième trait, c'est que souvent les apocalypses se présentent comme des messages très anciens qui sont restés cachés parce qu'ils ont été mis dans une grotte, parce qu'ils ont été détruits par l'ennemi et puis ensuite on a retrouvé dans les ruines le message. Donc ce message secret, caché, apparaît miraculeusement à celui qui le transmet. Ce qui explique pourquoi on va retrouver par exemple le testament d'Adam et Ève. Parce qu'Adam et Ève, en bon patriarche, ont écrit un testament. Hein. Alors c'est quand même très intéressant de savoir quel est le testament d'Adam et Ève. Vous voyez le genre de littérature. Le récit d'Isaïe qui est monté au ciel et qui nous fait un rapport circonstancié de tout ce qu'il a vu en montant au ciel. Premier ciel, il a vu ceci. Deuxième ciel, il a vu ceci. Troisième ciel, il a vu ceci. Et quand il arrive au septième ciel, évidemment, il voit Dieu. C'est toujours cette idée, hein, d'un livre de valeur tenu caché qui va permettre de parler du présent. Autre élément, le livre s'adresse à des persécutés. Et c'est toujours une parole de réconfort pour tant de persécution. Et le message est très simple, justice sera bientôt faite, les méchants seront punis, les justes récompensés. Et le trait nouveau, hein, des apocalypses, c'est que cette punition et cette récompense seront pour l'éternité. C'est ça un élément nouveau de cette littérature. Avant, on parlait de la punition des méchants, mais pour cette vie. Et donc, la vie après la mort joue un rôle considérable. Et enfin, septièmement, corrélativement à cela, il y a une vision de l'au-delà de la mort. On va nous décrire ce qu'il y a après la mort. Et dernier point, le déroulement est scandé par des chiffres qui ont une valeur symbolique, les chiffres 12, les chiffres 7, de manière habituelle. Donc, vous voyez qu'il y a dans cette perspective des éléments qui sont tout à fait présents dans le livre de Jean et dont il faut trouver la singularité. Alors, avant de le faire, une dernière remarque générale de la première partie que j'ai appelée le mouvement apocalyptique. Je vous ai dit à l'instant que les apocalypses étaient écrites dans un temps de persécution. Et ce temps de persécution suscite des réactions tout à fait passionnelles. C'est la raison pour laquelle on peut voir que toutes les apocalypses, au sens général du terme, ont été écrites dans un temps de persécution. Avec, pour cette raison, une radicalisation de tout ce qui fait partie des exigences de la vie. Et quand on est, comme nous ici, calmement installé dans l'amitié et dans la confiance, on n'est pas dans l'extrême des passions. Mais si évidemment on est menacé de mort, à ce moment-là vont se réveiller en nous des choses endormies dont nous ne sommes peut-être même pas conscients, qui seront à la fois peut-être le meilleur et peut-être le pire. Donc les apocalypses participent de ce mouvement. Alors, par exemple, dans le livre d'Esther, qui date un peu du même contexte, vous voyez ce que dit Esther. Esther dit ceci, « Nous sommes voués, mon peuple et moi, à la tuerie, à l'extermination, à l'anéantissement. Si encore nous avions été voués qu'à devenir esclaves ou servantes, je me serais tue. » Esclaves ou servantes, c'est le peuple juif asservi en Égypte. Mais vous voyez le mot, la tuerie, l'extermination, l'anéantissement. Donc c'est pas la déportation, c'est plus. Donc il faut que Dieu intervienne d'une manière prodigieuse pour répondre à une situation exceptionnelle. Et derrière cela, un lecteur moderne se pose la question, mais où donc est Dieu, puisque ce sont les justes qui sont persécutés. D'où l'interrogation pathétique du livre, où donc est Dieu dans cette situation de détresse. Alors nous avons dans ce contexte, dans le Nouveau Testament, passons au Nouveau Testament, dans les évangiles, avant la Passion, quand Jésus est à Jérusalem, dans les derniers jours de son ministère présenté par les synoptiques, des fragments qui annoncent la fin des temps, qui sont dans le style des Apocalypses. Hein, les jours du Fils de l'homme, tous ces éléments. Le contexte, quel est-il le contexte? On ne va pas commenter ces textes, mais il faut bien les situer. Le contexte est alors la destruction de Jérusalem par les Romains, autour des années 70. C'est pourquoi la considération sur la fin des temps et le retour du Christ et la situation dramatique de Jérusalem assiégée sont corrélées. Donc, eh bien, nous aurons évidemment à ce moment-là un certain nombre de paroles concernant la fidélité. Faut-il tenir bon dans l'épreuve? Faut-il se sauver? Donc toutes ces questions, vous les voyez, elles sont déjà dans l'Évangile, sur un autre mode que dans le texte de l'Apocalypse de Saint Jean, que nous allons essayer maintenant de comprendre. Ça va? Donc, dans cet ensemble dit Apocalypse, la singularité, qu'est-ce que Jean a voulu nous dire? Alors pour cela, nous allons nous mettre à l'école de Jean. Le livre est très bien construit, très ordonné, c'est d'une rigueur absolue. Et il y a au début ce qu'on peut appeler un prologue, ce sont les trois premiers versets, et ensuite une adresse, ce sont du verset 4 au verset 8, les quatre versets suivants, dans lesquels Jean finalement nous dit tout. Si vous avez compris ça, vous savez ce qu'est l'Apocalypse de Jean. Donc je vous ai dit révélation de Jésus-Christ, je vous ai déjà commenté ces trois premiers mots. Le mot Apocalypse, révélation de Jésus-Christ, révélation qui porte sur Jésus-Christ qui est son objet, ou révélation de Jésus-Christ qui se révèle, qui est l'auteur de la révélation, et les deux choses s'entrecroisent. Parce que en nous apportant un message, Jésus nous dit quelque chose de lui-même. Quand on s'engage dans ce qu'on dit, on se dévoile, plus ou moins. Eh bien, Jésus va nous dire quelque chose de lui en donnant son message à propos de ce qui arrive aux persécutés. Alors Dieu la lui donna, c'est pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Dieu la lui donna, l'origine c'est le Père, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voilà, c'est le but visé par le livre. Dire l'avenir aux chrétiens, ici appelés serviteurs, serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a formé un plan sur l'humanité. Dieu est le maître du monde et on s'interroge dans la détresse présente sur l'avenir, eh bien, cet avenir, Dieu a un plan, et Dieu va nous dévoiler le plan qu'il a concernant l'avenir, et ce qui doit arriver bientôt. Et le mot « bientôt » est tout à fait important, c'est l'imminence de ce qui va arriver. Ce n'est pas pour dans 1000 ans, ce n'est pas pour dans 100 000 ans, ce n'est pas pour dans 3 milliards d'années. L'extinction du système solaire qui va exploser quand le soleil va mourir, c'est dans 5 milliards d'années. Bientôt, hein, c'est peut-être tout de suite, voilà, sans tarder. Pourquoi sans tarder? Alors c'est évidemment ce qui nous intéresse. Alors ceci répond à ce que nous lirons dans la conclusion. Le dernier mot d'Apocalypse, c'est Jésus qui parle et qui dit « Je viens, voici, je viens bientôt ». C'est-à-dire, nous entendons ceci comme une bonne nouvelle. Nous sommes dans la détresse, ça ne peut pas durer. Et Jésus nous dit, par l'intermédiaire du prophète, « Je viens bientôt ». Voilà. Il faut maintenant donner un contenu à ce « ça ne va pas durer ». Donc c'est une déclaration pour les chrétiens persécutés. Alors l'ange, je vous ai parlé des anges, communication du ciel de la terre, l'ange est venu s'adresser à Jean. L'auteur est nommé. Alors ce qu'il y a de très intéressant, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous avions, quand dans les apocalypses juives, ou même pseudo-chrétiennes, nous avons toujours un personnage éminent qui porte le message. Donc c'est Abraham qui a écrit ses mémoires, Adam et Ève qui ont fait leur testament, Isaïe qui étant allé au ciel écrit ses mémoires comme est dans une grotte, qu'on trouve tout à fait par hasard quelque part dans le désert, mais c'est des grands personnages. Ici celui qui se présente dit « Je suis Jean, serviteur de Dieu ». Et dans l'adresse, un peu plus loin, il va nous dire que lui aussi se trouve en déportation. Donc ça c'est un élément extrêmement significatif. Alors on a identifié dans la tradition ce Jean avec l'auteur de l'Évangile. Alors la question est difficile. De fait, il y a entre des éléments théologiques du livre et l'Évangile de Jean des rapprochements significatifs, même si le style est totalement différent. Nous avons la suite. Jean, le serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que le témoignage? Le mot français est faible, le mot grec c'est le mot transcrit en français par martyr. Donc la communauté est persécutée, Jean est une des victimes de la persécution. Et il a rendu témoignage à la parole, en étant martyr à cause de sa fidélité à la parole de Dieu. Donc il a subi le martyr au nom de l'Évangile, au nom de sa fidélité, de sa foi. Donc l'Apocalypse est une bonne nouvelle qui est portée aux chrétiens par un chrétien persécuté comme eux. C'est ça son lieu. Ensuite, nous avons la première chose, le témoignage de Jésus-Christ, toutes ses visions. Tout ce qu'il a vu. Alors le verbe « voir » demande explication. Certains ont une conception de la vision qui est une vision. Donc on est ébloui, on voit des choses extraordinaires, un cinéma pas possible. Alors on va dire ce qu'on a vu. Je crois que le mot « vision » ici doit s'entendre dans un sens beaucoup plus général. Le verbe « voir », tu vois ou tu vois pas, on comprend. C'est-à-dire qu'il a eu l'intelligence de ce qui se passe. Et ce qui se passe, il va le dire d'une manière tout à fait sensible par des images. Ceci, j'insiste là-dessus, parce que le livre, c'est pas Monsieur Jean qui était comme ça à l'heure de la sieste ou dans les tourments de ses insomnies nocturnes et qui aurait eu des éblouissements en cinémascope ou à 3D, lui montrant des anges, des chevaux, des trucs extraordinaires. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui a eu l'intelligence et qui l'a traduit dans un langage visuel et par un travail de composition littéraire extrêmement minutieux. Et nous avons ici, verset 3, une chose importante. « Heureux le lecteur et les auditeurs de cette prophétie qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. » J'ai plusieurs traductions sous les yeux. Et nous voyons que nous avons ici une béatitude. Alors, quand on pense Apocalypse, on pense catastrophe. Non, c'est une béatitude. Et selon l'articulation du livre, nous aurons 7 béatitudes dans le livre. 7 béatitudes. C'est important de noter cela parce que le livre n'est pas là pour annoncer un malheur, mais il est pour annoncer un bonheur, le bonheur que donne Dieu. La parole « heureux le lecteur » et les auditeurs de ces paroles prophétiques vous sont familières parce que nous l'avons sur les lèvres de Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 11. « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et dans l'évangile de Jean, nous avons « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Donc voyez, ces béatitudes de l'Apocalypse, elles sont déjà dans l'évangile. Chez saint Luc et chez saint Jean. Béatitude de ceux qui gardent la parole. Et garder la parole, c'est évidemment la garder fidèlement. Donc la porter aussi pendant le temps de l'épreuve. Alors il y a à partir de là un autre point important. Heureux le lecteur. Pour nous, lire, c'est une activité que nous faisons dans le silence. Pour les anciens, on ne lisait pas des yeux. On prononçait les mots. Donc lire, c'est le sens encore anglo-saxon du mot lecture, c'est une parole publique. Et donc le mot lecteur, alors je l'accroche là parce que c'est très important, nous dit que ce qu'il y a dans cette parole, c'est une parole qui est destinée à être publique. Où est-ce que la communauté a une parole publique ? D'abord dans la liturgie. Et donc nous voyons un élément extrêmement important pour bien comprendre la position du livre de Jean, l'Apocalypse. C'est un livre qui est fait pour être lu dans le cours d'une liturgie. Alors ça a des conséquences extrêmement importantes. Ce n'est pas un truc manuscrit qu'on se passe de la main à la main comme un secret. C'est quelque chose qui est fait pour être lu en public. Un deuxième élément important qui va nous expliquer pourquoi le livre est difficile, c'est que dans la liturgie, qu'est-ce qu'on fait ? Dans la liturgie, on lit la Bible. Et ensuite, il faut que le lecteur soit celui qui montre que ces paroles de la Bible ne sont pas des paroles d'archéologue concernant le passé, mais des paroles de Dieu au présent. Eh bien, c'est ça que fait l'Apocalypse. L'Apocalypse va prendre des textes de la Bible, l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament n'est pas encore écrit définitivement, et va montrer que ces textes ont valeur aujourd'hui. Et c'est pourquoi le livre de l'Apocalypse, c'est la seule difficulté qu'il y a, c'est que c'est un livre qui est écrit en mettant bout à bout des tas de références à l'Ancien Testament. Alors comme on ne connaît pas assez l'Ancien Testament, ça nous paraît bizarre. On dit, mais d'où ça sort ? Il a beaucoup d'imagination. Non, mais si on a lu, par exemple, dans la Bible, la vision d'Ézéchiel, Hein, on peut lire le chapitre d'Ézéchiel, c'est un auteur bien fréquenté, où il est question des vivants autour de Dieu, qui ont des yeux partout, sur des chars avec des roues dans la roue qui tournent, etc. Enfin, ce qui passe l'imagination. On va retrouver toutes ces visions dans le livre. Celui qui connaît la Bible reconnaît qu'on cite Ézéchiel. Donc, heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques, c'est-à-dire que l'Ancien Testament, parole de Dieu, lu dans la liturgie, est compris comme actuel par la vision, qui va rapprocher évidemment des textes pour montrer que la volonté de Dieu, décidée de toute éternité, donc dès avant la création du monde, va se réaliser aujourd'hui, puisque ce qui est dit dans le livre correspond à ce qui est dit, à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce qu'on peut considérer comme étant le prologue qui nous donne la nature du livre, révélation de Jésus-Christ, qui nous donne son origine, qui nous donne l'écrivain, sa position, le témoignage de Jésus-Christ et la position du livre dans une liturgie où on actualise les textes de l'Ancien Testament. Alors après cette introduction, il y a une adresse qui se fait comme si le livre était une lettre. Jean aux sept églises d'Asie. Grâce et paix vous soit donnée par il est, il était, il vient, et par les sept esprits présents devant son trône, et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Vous voyez, c'est comme une lettre. Jean, enfin, les épées de Paul, Paul apôtre, écrivant aux Corinthiens, Jean, écrivant aux sept églises d'Asie. Alors, le mot Asie désigne, comme vous le savez, la province qui est maintenant le bout de la Turquie, le bord de la mer Égée. Hein, donc sept églises, donc vous retrouvez, pas de surprise, le chiffre 7, hein, les banques qui ont nommé ensuite. Donc c'est comme une lettre écrite par Jean. Elles sont données par il est, il était et il vient. Donc c'est, vous sentez bien que nous avons derrière une allusion. Vous savez que quand Moïse a demandé à Dieu quel était son nom, Dieu a prononcé un mot dont la traduction en français fait que tous les exégètes s'arrachent les cheveux parce que c'est formé sur le verbe être et dans l'hébreu, il n'y a pas de verbe être. Donc, on utilise un verbe qui n'existe pas, enfin, ou qui n'existe pas dans la forme que nous connaissons nous, et donc a été traduit en grec en déclinant le verbe être. Il est, il était et il vient. Le passé, le présent et le futur. Il vient. À vrai dire, c'est pas il vient, c'est un substantif, c'est un participe qui a le venant. Voilà. Donc c'est cette plénitude de l'être de Dieu qui est le Dieu révélé à Moïse. C'est vrai que vous avez une allusion à la révélation à Moïse. Très clair. Hein, le nom donné à Moïse, traduit en grec. Ensuite, il y a les sept esprits et Jésus-Christ. Et nous voyons là, évidemment, dans les sept esprits, une référence aux sept esprits. Ici appelé par redondance sur le mot 7, d'après le texte messianique d'Isaïe qui dit que le Messie aura la plénitude et les sept dons de l'Esprit, hein, l'Esprit est mentionné, et ensuite Jésus-Christ, le témoin fidèle. Donc nous avons une ouverture trinitaire de la salutation. Saint Paul fait pareil, hein, le Père, le Fils et l'Esprit. C'est dit d'une autre manière. Ensuite il est précisé de Jésus-Christ dont on va dire qu'il est le témoin fidèle. Je vous ai dit que témoin, c'était martyr. Donc, à des martyrs, à une communauté persécutée, celui d'où vient le message, c'est par Jésus-Christ, le témoin fidèle par excellence. Puisque c'est celui qui est mort pour le règne de Dieu et celui que Dieu a ressuscité. Et on dit précisément, il est le premier-né d'entre les morts. Donc, nous avons là ce qui est véritablement le cœur de la foi. La mort et la résurrection du Christ. C'est parce que le Christ est mort et ressuscité, qu'il a connu la passion, qu'il peut adresser un message de réconfort à ceux qui s'adressent à lui. Ensuite, le Christ, il est prince des rois de la terre, il nous aime et nous a lavé de nos péchés par son sang, c'est le baptême. Il a fait de nous une royauté de prêtres pour son Dieu et Père. C'est la consécration baptismale qui nous donne accès à Dieu. À lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Vous voyez, c'est liturgique. Amen. Alors, voilà le message. Voici, il vient sur les nuées. Chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. C'est la fin de l'évangile de Jean. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Et voilà le message. Ce qui s'est passé le jour de la Passion. Le Christ transpercé du coup de lance a été vu par qui ? Par les soldats, par quelques témoins, ben, à la fin des temps. C'est ça qui sera vu par tous. Et donc, voyant cela, ceux qui ont conduit le Christ à mort vont reconnaître leur péché. Donc il y aura dévoilement du péché. Et en même temps, manifestation de que cet acte est lié par l'amour. Chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé, sur lui se l'ont montré toutes les races de la terre. Citation, là aussi, des psaumes et des prophètes. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Il est, il était, il vient, le maître de tout, l'alpha et l'oméga. Vous voyez donc les notions tout à fait liées à celui qui est reconnu dans sa divinité. Voilà, donc vous avez le prologue et vous avez l'adresse, et donc vous avez vu ce qui est l'auteur, pourquoi il écrit, quel est son message. Le retour du Christ est imminent, je viens bientôt. Et c'est une bonne nouvelle. Pour des persécutés, celui qui vient, c'est celui qui a lui-même connu la persécution. Ce n'est pas quelqu'un qui vient d'ailleurs. Vous savez très bien quand vous êtes malade et quelqu'un qui est en pleine santé qui vous dit ben, « courage, confiance, c'est rien, si tu savais ce que c'était, hein, tu ne dirais pas que c'est rien ». Mais comme il n'a pas vécu, il ne le sait pas. C'est le témoin infidèle qui va dire « oh », le martyr par excellence, qui va dire « oh, martyrisé, je viens ». Et avec moi viendra le royaume de justice. C'est ça le but du livre. Alors, je ne lis pas tout, évidemment, parce qu'on n'a pas le temps. Simplement, pour vous dire que le livre est construit sur ce développement. Alors, c'est très simple. Le livre est écrit en 7 parties, pour une raison très simple que vous avez déjà devinée. C'est que quand on dit 7, pour des gens qui lisent la Bible, on pense à la première semaine dans la Genèse. Donc, qui dit 7, dit création. Qui dit 7 parties, va nous dire... la nouvelle création. Et c'est pourquoi la fin du livre consistera à nous faire voir la nouvelle création. D'abord, nous avons 7 lettres aux 7 églises. Ensuite, il y a 7 sceaux qui sont ouverts et le Christ est le maître de l'histoire. Il y a ensuite la sonnerie de 7 trompettes. Nous avons l'avenir du monde. Il y a ensuite 7 signes qui nous présentent l'église et les versets. Il y a ensuite 7 coupes qui sont versées. C'est les luttes de l'église. Et enfin, le jour du Seigneur. Et enfin, la Jérusalem nouvelle. Donc tout ça est extrêmement facile à restructurer quand on a compris la symbolique. Alors ce qui nous intéresse évidemment, ce n'est pas de parcourir le livre en son entier, on n'a pas le temps, c'est ce qui concerne notre sujet, la fin du monde. Alors la fin du monde, il faut la prendre à partir du début du livre. Alors c'est pourquoi je vous ai mis en numéro 4 sur la feuille que j'ai donnée à l'entrée, qui est la suite du premier chapitre. « Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait. M'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or, au milieu des candélabres comme un fils d'homme revenu de longues robes serré à la taille par une ceinture en or. Sa tête avec des cheveux blancs et comme de laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds pareils à de l'airain précieux qu'on aurait purifié au creuset, sa voix comme la voix des grandes eaux. Dans la main droite, il a 7 étoiles, de sa bouche sort une épée acérée à double tranchant, son visage c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat, et à sa vue je tombais à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi la main droite en disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier vivant, je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles, dans la clé de la mort et de la death, écris ce que tu as vu, le présent et ce qui doit arriver plus tard. » Donc nous avons la première vision inaugurale qui nous montre qui est celui qui s'adresse. Alors, d'abord, vous regardez bien les images. Je regardais la voix. Vous sentez bien qu'il ne s'agit pas de transcrire des choses immédiates. Une voix qui se regarde. C'est intéressant. Donc vous voyez, quand on parle de vision, ce n'est pas hallucination, c'est réflexion. Alors, je vis 7 candélabres d'or. Voilà, pas de problème, 7. Et comme un fils d'homme. Et donc nous avons le mot « fils d'homme ». Alors le mot « fils d'homme », excusez-moi de vous dire des choses très élémentaires, hein, c'est le mot par lequel Jésus se désigne lui-même dans l'Évangile. Quand Jésus parle de... Alors on traduit, pour éviter « fils d'homme » qui est banal, on traduit par « fils de l'homme », ce qui est littéralement, c'est littéral par rapport à Jésus. Pourquoi on fait ? Parce que la notion de « fils de l'homme » vient du livre de Daniel, qui est une grande apocalypse de l'Ancien Testament. Nous avons une apocalypse, c'est le modèle de toutes les apocalypses juives et chrétiennes. Daniel a là aussi une vision, Dieu vient juger le monde, et ce jugement alors s'oppose à la puissance du mal qui est présentée par des bêtes. Les bêtes sont faciles à discerner, puisque ce sont les empires qui ont persécuté Israël. Donc les Assyriens, les Perses, etc. Enfin, toute une série de gens. Et chacun est représenté emblématiquement par un animal farouche. Il n'y a pas aucune difficulté. C'est les emblèmes qui se trouvent sur les armées. Voilà. Donc, on voit toutes ces figures, dans des figures bestiales, qui représentent les persécuteurs. Et s'oppose celui par qui Dieu fait le jugement, qui est une figure d'humanité, le Fils de l'homme. Et Jésus s'identifie à cette figure d'humanité, pourquoi il s'appelle Fils de l'homme. Donc voyez, derrière nous avons tout Daniel et tout l'évangile dans lequel Jésus se désigne comme le fils de l'homme. Comme un fils d'homme, mais comme. Il n'a pas vu un fils d'homme, il a vu comme. Il est toujours, hein, toujours cette distance. Alors une longue robe, serrée la taille par une ceinture en or, l'or c'est la divinité, sa tête ses cheveux blancs, hein, ça c'est la vision de la sagesse, de la puissance, ses yeux qu'une flamme ardente, ses pieds de l'airain précieux, voilà, donc sa voix comme les grandes eaux, c'est des traits qui sont habituellement dits dans la manifestation de Dieu dans les Apocalypses. Donc ça veut dire que le Christ vient avec la puissance de Dieu. Dans la main droite, il a 7 étoiles. Alors ça, c'est une vraie image. Vous voyez, mettez pas des étoiles dans la main, ça tient pas, ça brûle. Mais quelle est l'image ? L'image, c'est l'image de la main. On tient dans la main. C'est précieux, c'est un geste d'affection. Et 7 étoiles, évidemment, qui vont être la figure de l'univers. Alors de sa bouche sort une épée acérée à double tranchant. Ça, c'est la référence au psaume qui dit que Dieu va juger. Et le système du jugement, ça consiste à discerner, à séparer la chair des os, la viande régime avec les graisses mauvaises pour le cholestérol. Donc c'est le tranchant qui fait, c'est lié au jugement. Donc il tient dans sa bouche une épée acérée. C'est-à-dire que c'est la parole qui fait le jugement. Alors évidemment, dans la représentation picturale, cette représentation avec le glaive entre les dents, ça change le sens de l'image. C'est pas l'assassin, le glaive entre les dents qui vient piller. Non, c'est la parole qui fait le discernement. Ensuite, il dit, je suis le premier et le dernier, vivant je fus mort, me voici vivant pour les siècles des siècles. Donc la résurrection affirmée, détenant les clés de la mort et de l'Hadès, et nous sommes renvoyés au scénario de la fin des temps, on va ouvrir les portes de l'enfer, il est descendu aux enfers. Vous retrouvez. Hein. Alors, écris ce que tu as vu. Voilà, donc vous voyez, la vision nous montre quel est le présent qui est le maître du temps. Alors, nous avons, sitôt après, les 7 lettres, et je vous lis la suite dans ce texte numéro 5, la fin des messages à chaque église. Donc, c'est les paroles de consolation qui sont dites aux persécutés par les formules suivantes, aux vainqueurs. Alors, nous avons, tout est dit dans ces formules. Mais je vous ai dit, c'est un message heureux aux vainqueurs qui était dit, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. Vous vous souvenez que dans le récit biblique, le chérubin qui empêche d'accéder à l'arbre de vie, aux vainqueurs, je ferai manger. Et à la fin, dans la vision, on verra que dans la Jérusalem céleste, c'est plein d'arbres de vie. Voilà. Ensuite, le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Alors, je vais expliciter tout à l'heure la première, deuxième mort, c'est quelques subtilités très simples. Ensuite, vous voyez, on reprend tous les éléments de la vision. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, assez mystérieux, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. La révélation qui sera enfin donnée, la réponse, qui suis-je ? Je peux vous raconter ma vie, mais ça ne vous dira pas qui je suis, parce que je ne le sais pas moi-même. Eh bien, dans cette révélation, à la fin des temps, nous recevrons le nom qui nous fera être ce que nous sommes. Nous serons révélés à nous-mêmes. Tout ce que nous avons été dans notre enfance, dans notre adolescence, les parties sombres, les parties lumineuses, les parties cachées, ce qu'on dit à personne, tout cela sera manifesté. Un nom nouveau, comme une pierre blanche. Alors, à Thyatir, le vainqueur, je donnerai pouvoir sur les nations. Le vainqueur, je lui donnerai l'étoile du matin. Pas mal comme cadeau. Vous voyez donc, c'est ce message d'espérance qui ouvre le livre. Alors, nous allons maintenant aller à la fin, après avoir vu le début. On va passer toutes les visions. La fin des temps, puisque c'est ça qui nous intéresse. Alors, pour cela, nous avons une difficulté théologique. Alors, je me sens utile en vous expliquant où est la difficulté. La difficulté, ben, c'est très simple. C'est que concernant la fin des temps et l'au-delà de la mort, le judaïsme n'avait pas de doctrine sûre. Que les textes de la Bible ne nous présentent pas quelque chose de sûr et de certain. Et effectivement, comme vous le savez, puisque c'est dans l'Évangile, vous savez qu'il y a une tension entre les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens croient à la résurrection. Les sadducéens, c'est pas n'importe qui les sadducéens, c'est les prêtres de Jérusalem. C'est des notables qui ont autorité. Ils sont prêtres à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection. Pourquoi ? Parce que dans les premiers livres de la Bible, dans la Torah, le mot résurrection n'existe pas, on n'en parle pas. Voilà, l'horizon de la vie s'arrête au décès et l'avenir de la vie, c'est dans la descendance que l'on a. Donc, vous voyez, le judaïsme envisage une résurrection, Des textes le disent, Daniel le dit, il y a des traces dans le livre de Job, le livre grec de la sagesse le dit clairement, mais il n'y a pas de doctrine de l'au-delà qui soit sûre. C'est pourquoi il y a une pluralité de représentations de la fin des temps. C'est un peu comme, si j'ose dire, ne demandez pas, quand vous faites un réunion de famille élargie, pour qui chacun a voté aux dernières élections. Vous risquez d'avoir quelques déconvenus au niveau de l'unité familiale. Mais c'est légitime que nous ayons des points de vue différents. On ne va pas se disputer pour ça, c'est pourquoi on en parlera en privé, pas dans le moment où il faut de l'unanimité. Donc là, c'est pareil. Il y a différentes doctrines, selon les milieux, différents scénarios, donc des choses de visualité, et les chrétiens, qui sont des juifs devenus chrétiens, gardent avec eux cette pluralité. Et le livre de l'Apocalypse est le témoin de cette pluralité. C'est-à-dire que quand on essaie de faire les choses géométriquement, de manière rationnelle, sur un seul scénario, ça coince toujours quelque part. Parce que vous avez le souci de commenter les textes et donc on importe des scénarios différents. Vous comprenez la difficulté. Donc c'est pourquoi les textes sur la fin des temps posent problème. Alors il y a, pour simplifier, 5 scénarios dans le judaïsme et dans la communauté chrétienne primitive. Alors évidemment, le catéchisme, après, va venir et va rationaliser tout ça. Mais quand vous rapportez le catéchisme à la Bible, ça ne marche pas toujours. Bon, alors, mais ça, on vous parlera du catéchisme demain, donc il n'y a pas de problème. Alors, premier scénario, c'est que nous trouvons dans l'Évangile, selon saint Matthieu, chapitre 25. Alors, après la mort, le défunt survit dans un état de quasi-absence qu'on appelle le shéol. À la fin des temps, il va ressortir du tombeau, dans l'état antérieur, donc avec de la chair et des os, identique à celle que nous avons maintenant. Il va se présenter devant Dieu, il va être jugé. Alors, s'il a fait le bien, il monte au paradis, et s'il a fait le mal, il va être envoyé pour la punition éternelle. Et c'est le scénario du chapitre 25 de Matthieu. Il y a ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche. D'un côté, on met les bons, d'autre côté, on met les mauvais. Les bons, ils vivent, et les mauvais, ils sont punis pour l'éternité. C'est le scénario simple. Alors, s'il n'y avait que scénario, il n'y aurait pas de problème. Il y en a un autre. Un autre schéma nous dit que le destin éternel est fixé au moment du décès et qu'on n'attend pas la fin des temps pour que tout le monde ensemble soit jugé. Et donc, sitôt après la mort, si on est bien, on va au paradis, si on est mal, on va en enfer, pas de délai. Vous avez ces textes qui le disent. Hein. Troisième texte, vous avez des textes qui disent que la résurrection, c'est pour les justes. Quant aux méchants, on n'en parle pas, ce qui laisse penser que les méchants sont néantisés. Alors c'est une idée qui est très à la mode aujourd'hui. Hein. Les méchants, tac, ils n'existent plus. Les autres, ils vivent. Ah, ils vivent heureux. Un quatrième scénario qui va justement nous donne du fil à retordre dans le code de l'Apocalypse, c'est qu'il y a 2 jugements. Ouais, on va dédoubler le scénario premier de saint Matthieu. Premier jugement, une période où la terre va être rénovée. Et sur cette terre, les justes vont vivre selon leur mérite. C'est une plénitude de temps qui est chiffrée par le chiffre 1000. 1000 ans. Et après cette période, il y aura la fin de l'histoire et l'entrée dans la vie éternelle qui n'est plus dans le temps. Alors, les bons vont être transformés, glorifiés, et les méchants seront punis éternellement. Donc, vous avez un temps intermédiaire de reconstitution du bonheur sur terre, du paradis, et donc ça dure 1000 ans. Cinquième schéma, qui est le schéma le plus commun dans notre monde, c'est la vision grecque de l'au-delà. Lors du décès, il y a séparation de l'âme et du corps. Donc on a une anthropologie différente. Commence un temps, donc dès le décès, il y a un premier jugement. C'est un temps d'attente. Les justes sont récompensés, les méchants ont leur punition. Mais ce n'est pas encore une vraie récompense, ce n'est pas encore une vraie punition, parce que c'est qu'une partie de leur être qui survit. Et donc, il y aura une deuxième intervention, une résurrection universelle, donc la reconstitution de l'humanité dans son entièrement, et punition éternelle pour les méchants, récompense éternelle pour les justes. Ça va ? C'est clair. Alors, c'est à ce scénario qu'on a ajouté au Moyen-Âge le purgatoire, en disant il y a les tout bons qui vont au paradis, il y a les tout méchants qui vont en enfer, mais comme on est, mais comme dans la vie on n'est pas ni tout gris ni tout blanc, enfin ni tout noir ni tout blanc, qu'on est un peu gris, temps de purification intermédiaire qui concerne les âmes. Et ensuite, une fois qu'on a fini ce temps de purification, on entre au paradis. Alors, vous voyez, ces 5 scénarios qui habite la culture du temps. Eh bien, le livre de l'Apocalypse va essayer d'y faire droit. Et c'est pourquoi il y a cet élément qui concerne les 1000 ans. Alors, les 1000 ans apparaissent ceci. Donc, je vis un ange descendre du ciel, ayant en main la clé de l'abîme, ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent, c'est le diable, Satan, et l'enchaînant pour 1000 années. Et ça, c'est notre schéma numéro 4. Donc, à ce moment-là, il y a le bonheur sur terre. Toute l'eschatologie juive est liée à l'idée de justice. Il n'est pas juste que quelqu'un qui est un homme bien n'ait pas connu le bonheur sur terre. Et donc, il faut que Dieu lui rende le bonheur sur terre, auquel il avait droit. C'est très important pour la justice. La justice pour les persécutés, mais la justice aussi pour les enfants. Pourquoi est-ce que les enfants meurent jeunes ? Ils avaient droit à une vie de bonheur. Ils ne l'ont pas eu. Donc, on va leur donner 1000 ans de vie sur terre. Mais pendant ces 1000 ans, le diable, en prison. Le vrai bonheur. Voilà. Et après, à la fin des temps, on va juger tout ce monde. Ça n'est pas le seul élément. Donc, il y aura une première mort et une deuxième mort. Une première résurrection, une deuxième résurrection, ce sont les scénarios. Alors, nous arrivons à la fin. Nous avons la nouvelle création. La nouvelle création qui nous montre cette plénitude de bonheur qui nous est donnée. Ben, vous connaissez les images, la Jérusalem céleste, le paradis. Voilà. Donc, alors, je conclue pour vous dire que les images que nous avons sont l'actualisation des images de la Bible. Donc, il n'y a pas d'originalité dans la création des images, mais une originalité dans l'agencement des images. Donc, la parole de Dieu n'est pas vaine. Les textes, alors évidemment les textes qui disent le jugement, qui ont toujours une partie de violence, et le jugement c'est violent, hein, il s'agit de punir les méchants. Alors on les rôtit à petit feu, on fait des tas de trucs, ils ont ce qu'ils méritent. Hein. Alors ce qui présente une difficulté, alors je vous termine cette embarque théologique, c'est qu'en reprenant ces images, on comprend que ça obéit à une exigence de justice. Mais ce faisant, l'image est ambiguë. Pourquoi ? Parce qu'on peut être content que la justice se réalise, mais on peut aussi prendre un plaisir malin à voir souffrir les autres. C'est ça l'ambiguïté. On peut dire tant mieux, les méchants sont punis, les justes sont récompensés, c'est justice. Mais on peut aussi, en nous, la part sombre qui est en nous, se réjouir du malheur des autres. Et c'est pourquoi il y a dans l'Apocalypse cette ambiguïté. À force de multiplier les images, on touche des choses qui forcément ne sont pas le meilleur de l'identité chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle le texte de l'Apocalypse a mis du temps pour être intégré dans le canon des Écritures. Ça lui donne beaucoup de débats en disant, mais ces images, d'accord, elles sont dans l'Ancien Testament, mais justement on peut le tenir à distance en disant, nous sommes chrétiens, c'est l'Ancien Testament, donc Jésus est venu. Donc vous voyez, la présence de ces images a fait une difficulté. Et je pense que par rapport à tous nos éléments, je dirais, de débat sur la fin des temps aujourd'hui, nous sommes invités à dire, mais est-ce que d'une certaine manière, nous ne sommes pas complices aussi d'une certaine complaisance avec le malheur des autres. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles le texte fait difficulté et continuera de faire difficulté. Mais je pense que ce que je vous ai dit vous permettra d'essayer de lire les choses. Et alors, dernière remarque, il faut distinguer entre l'énigme et le mystère. L'énigme, quand on a la réponse, on l'a trouvée, point final. Le mystère, on découvre, on voit et on a encore plus à voir. Alors je pense que la question qui nous est posée de l'Apocalypse, c'est celle de ne pas traiter l'Apocalypse comme un livre d'énigmes en disant « là j'ai compris, hein, quatrième cavalier, c'est référence à ceci, à cela, c'est clair ». Non, mais d'essayer d'aller plus loin et de comprendre qu'il y a un mystère, et le mystère de la présence du conflit du bien et du mal dans lequel nous sommes à la fois acteurs et victimes, et que par rapport à ça, Jésus nous dit « je viens bientôt ».